déclencheur de mon engagement politique, c'est le 11 septembre. En 2001, je me rappelle très bien, et après, encore plus après, avec le déclenchement de la guerre en Irak en 2003, on parlait beaucoup de politique. D'abord, j'étais à l'école secondaire, puis ensuite au lycée, ça parlait beaucoup de politique. Et puis, moi, j'ai jamais supporté les injustices. Ça m'arrivait plein de fois de chialer devant le téléjournal ou comme ça, j'arrivais pas. Ça me touchait vraiment très fortement et j'avais besoin de faire quelque chose. Et donc, pour moi, faire quelque chose, ça passait par s'engager en politique. Et à l'époque là. Je savais que j'étais de gauche.
Comment ?
Parce que j'ai toujours été du. Pour moi, ce qui compte, c'est l'harmonie, la solidarité, une société plus équitable. Et puis pour moi, ça passait par la gauche.
T'as peut-être déjà répondu, mais je vais reformuler peut-être plus. C'est quoi la gauche ?
Pour moi, c'est justement la gauche, c'est les valeurs d'équité.
C'est quoi l'équité ?
L'équité, c'est de donner à tout le monde les mêmes chances dans une société, que chacun puisse trouver sa place et qu'il n'y ait pas des personnes qui écrasent les autres. Et pour moi, les inégalités sociales, les inégalités de richesse, de revenus, pour moi, c'est quelque chose toujours qui m'a frappé, qui m'a marqué et que contre lesquelles j'ai toujours voulu lutter. Après, la société, c'est pas encore gagné. Et donc, j'ai toujours su que j'étais de gauche. Et pour moi, le POP était le parti qui répondait le plus à ses aspirations. À la Chaux-de-Fonds, comme je l'ai dit, il est toujours assez fort. Et puis, pour moi, les Verts, même si leur cause est plus que juste et je la partage à fond, le fond politique n'est pas assez présent.
Du coup, ça veut dire quoi, le fond politique n'est pas assez présent?
Ça veut dire que pour moi, l'écologie, ce n'est pas un programme politique. Ça peut être une composante d'un parti, d'un programme politique.
C'est pas assez quoi? C'est pas assez métaphysique?
Ouais,
c'est pas assez solide en fait pour
C'est solide, j'ai beaucoup d'amis verts, hein.
C'est pas un truc moral que je dis, c'est vraiment technique.
C'est pas une réflexion globale sur la société. Que l'axe de l'écologie, pense qu'on manque, et notamment l'axe social qui est pour moi autant important que l'écologie. On peut pas, l'un va avec l'autre. On peut pas, si on va que du côté du social, on massacre la planète, ce qu'on a fait joyeusement. Et puis si on va que du côté de l'écologie, on écrase l'humain. Donc pour moi, il faut cet équilibre entre les deux pour qu'on arrive à trouver un chemin. Et puis, le Parti Socialiste, à l'époque au lycée, c'était là. Pour nous, c'était le parti des sociotraites, c'est le parti qui se veut à gauche, mais qui a trahi ses engagements. Et puis ça, je me rappelle, c'était vraiment très très fort. Donc pour moi, c'était une évidence que je voulais pas aller dans ce parti-là. En plus, il y avait quelques dinosaures à l'époque dans le Parti Socialiste à la Chaux-de-Fonds. Donc pour moi, c'était une évidence, même si c'était aussi, je pense qu'il y a, c'est aussi une composante de ma personnalité, c'est que j'ai aussi un fort esprit de contradiction. Donc moi, je préfère aller du côté des minoritaires.
Et même avec cet esprit de contradiction, je suis sûr que par le fait que tu as intégré un appareil de parti ou même dans une famille, il y a la politique du compromis. Où est-ce que tu places sur le spectre qui va de la trahison à l'accord parfait, le compromis? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je comprends ce que tu veux dire par rapport au socialisme, mais d'autres pourraient te dire... On essaie juste d'être pragmatique et on ne peut pas aller complètement dans l'extrême, même si l'extrême, évidemment, si tant est que ce soit un extrême, hein, tu comprends bien qu'il n'y a rien de moral dans ce que je dis. L'extrême a l'avantage de, évidemment, poser les meilleures questions, d'être le plus franc, d'être le plus tranchant, etc. Mais il faut bien faire avancer. Et puis, si tu veux collaborer avec tout le monde, il faut bien quand même. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qui est à peu près, sauf erreur, le discours que tenait Romain et que je peux comprendre.
Ah, déjà, je précise. Là, je parle de mon état d'esprit quand. J'ai 16 ans en ce moment.
Bien sûr. Donc, parce que la question d'après, c'était comment est-ce que ça a changé depuis, justement.
Okay, on pourra y revenir après. C'est une question compliquée. C'est la question de comment peut venir ou pas le changement. Et là-dessus, si on avait une bonne réponse définitive à cette question-là, on l'aurait déjà appliquée. Je ne prétends pas l'avoir. Je suis assez convaincu que si on parle de révolution, c'est quand même un peu l'idéologie, on va dire. C'est la volonté, c'est... la gauche radicale, c'est d'aller vers une révolution.
Ton engagement est une réponse à cette question. Comment vient le changement, quand même?
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, en quelque sorte.
Qui n'est pas la même réponse qu'un socialiste.
Non.
On est d'accord sur ce prédicat.
Qui n'est pas la même qu'un socialiste, on est d'accord.
Pas la même manière d'amener le changement.
Pas la même manière.
De l'espérer ou de contribuer à ce qu'on pense qui amènera le changement.
Pas les mêmes pratiques politiques aussi, je dirais, mais ça, on peut aussi y revenir après. Mais je suis assez convaincu que même si on prend le pouvoir un soir, et même le lendemain matin, il faut reconstruire une société. Et puis qu'après le grand soir, il y a le matin. Et puis que le matin, c'est, s'il n'est pas un minimum pragmatique, un minimum réfléchi, ben, c'est une gueule de bois. Donc, moi, je suis assez... à la fois, je rêve d'une révolution dans le sens où on change le système complètement, mais en même temps, j'ai bien conscience que si là, maintenant, j'ai une baguette magique, je change le système, eh ben,
il
faut reconstruire. Et puis, ben, en général, on repart quand même sur des bases existantes. Donc, c'est pas une question facile. Après, moi, je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une présence dans le Parlement, il faut à la fois un travail de longue haleine pour aller vers un but idéal, on va dire. Mais en même temps, il faut aussi des mouvements dans la rue, il faut en même temps un engagement qui peut être hors du système pour permettre les changements. Donc c'est un peu cet équilibre entre les deux. Au POP, bah, c'est toujours d'ailleurs une tension. Est-ce qu'on fait du parlementarisme? Est-ce qu'on veut aller dans ce sens-là? Ou pas? Est-ce qu'on arrête? Et honnêtement, je respecte les deux positions parce que je pense qu'elles sont complémentaires et puis qu'il faut aller, il faut un peu des deux. Mais si on est trop parlementaire, bah, on oublie ce côté militant, on oublie la rue, on oublie la base qui est quand même, c'est le sens de l'engagement. C'est pas de travailler pour soi, c'est de travailler pour la population, pour travailler pour ceux qui peut-être ont moins les moyens d'avancer leurs revendications.
Parce que tu verrais le parlementarisme comme une forme de travail pour soi?
Non, c'est pas ça, mais ça peut être un entre-soi par contre.
Ah ouais, alors ça,
quand on reste ensemble, ben, on le voit, la composition des parlements, c'est quand même les mêmes types de professions, ouais, etc. Combien il y a d'ouvriers dans les parlements, pour diverses raisons.
L'élu du POP, il est ouvrier? L'élu national du POP? Lui, il est de l'ascendance ouvrière?
Il est footballeur.
C'est vrai?
Ouais, il était footballeur.
Incroyable.
Mais il est plutôt du côté ouvrier.
Ouais. Ouais.
Après, il a fait 24 ans dans un exécutif, donc est-ce qu'il est encore ouvrier? À quel point? Voilà, c'est toujours une question. On peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Il n'y a pas de bon. Je pense que le plus sain à ce niveau-là, c'est de se reposer régulièrement la question: est-ce que je suis vraiment en train d'aller dans la bonne direction?
Est-ce que je suis encore
légitime? Est-ce que je fais ce que je sens et qui correspond à mon aspiration, ou bien est-ce que je suis en train de faire autre chose?
Toi, tu te poses souvent cette question? Parce qu'il y a aussi un entre-soi universitaire, un entre-soi intellectuel.
Bien sûr.
Comment est-ce que tu fais pour t'efforcer de rester conscient de la réalité des gens pour lesquels tu parles, puisque tu es déjà élu? Depuis un moment, d'ailleurs.
Je suis élu depuis un moment. Après, moi, j'ai quand même un parcours assez particulier, on va dire. Moi, j'ai été père au foyer pendant 5 ans, donc je me suis occupé de mes enfants à une période où on était vraiment dans une précarité assez forte. On était au point de savoir... pas faire une sortie, on va acheter des pâtes. Moi, je me rappelle plusieurs situations en politique. Bah, quand même, la politique, ça se passe aussi par la socialisation, ça se passe aussi par aller boire un verre, par aller manger quelque chose. Et puis, bah, des fois, je devais trouver pourquoi, un argument pour expliquer pourquoi j'allais pas aller boire ce verre-là, parce que j'avais pas les moyens financiers.
Je vois ce que tu veux dire.
Donc, quand même, à ce niveau-là, je pense avoir quand même connu des choses qui me permettent aussi de me rappeler de ce que c'est la pauvreté, d'où ça peut en venir. Je suis doctorant, hein, donc je suis de loin pas riche actuellement, mais oui, je me pose cette question: est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que l'engagement politique que je mène, il a du sens? Je travaille quand même, la députation avec les commissions que j'ai, c'est quand même une part importante de mon activité qui prend des fois sur mon activité académique. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir adapter totalement mon temps de travail, ce qui est une chance mais aussi un grand défi parce que j'ai une famille. Si le travail que je fais pas, c'est pas que je peux l'éliminer, je dois le reprendre à un autre moment, donc c'est le soir, donc c'est le week-end.
Mais concrètement, comment ça se fait en fait quand t'es député de rester à l'écoute, genre vraiment, comment est-ce que t'entends les récriminations de madame machin 64 ans retraitée à qui on vient d'enlever la moitié de sa pension, ou de monsieur machin chômeur depuis 10 ans, enfin comment est-ce que concrètement, vraiment, fixe. C'est quoi, vous avez des réunions du parti où ces personnes viennent pour justement vous faire part de ça, ou comment est-ce qu'on le sait en fait, bon, à la base?
Alors, je dirais, il y a deux réponses à cette question. Bon, la première, c'est oui, on a des séances, ce qu'on appelle le comité cantonal chez nous, ou bien des séances de section aussi locales.
Mais ça, c'est pour les inscrits.
Alors, c'est pour les adhérents,
ouais.
Mais c'est aussi c'est des adhérents qui sont certains anti-parlementaires ou qui sont pas élus, etc. Donc il y a une mixité qui permet aussi d'avoir d'autres regards, parce que c'est vrai que si on est contre député, bah des fois, vous faites quoi les gars, on était en train de
vous
allez dans le bon sens ou pas,
ouais.
Donc déjà à ce niveau-là, il y a un dialogue à l'interne du parti qui permet aussi de voir si les préoccupations sont partagées, s'il y a d'autres sujets qu'il faut amener. Il y a quand même heureusement des ouvriers dans le parti, il y a des gens très pauvres, il y a des précaires, il y a plein de catégories de la population qui sont représentées au sein du parti. Et donc déjà là, il y a un premier élément. Et puis le deuxième, on a une permanence sociale au POP. Notamment, beaucoup de personnes à remplir les déclarations d'impôts. Donc, on voit aussi la situation sur le terrain concrètement. Combien ils ont d'argent, qu'est-ce qu'ils doivent payer, etc. Où ils en sont. Moi, j'ai rempli pendant plusieurs années les déclarations d'impôts. Je me rappelle des situations où on se dit ah ouais, quand même, c'est chaud. Comment tu peux vivre avec ça? Je me rappelle d'un couple de retraités qui devait avoir entre 85 et 90 ans. Ils avaient environ 35 000 francs entre leurs différents 30 à eux deux. Ils payaient un loyer d'environ 1 000 francs par mois. Les assurances maladie, c'était entre 1 000 et 1 200, je ne sais plus exactement. Et puis, les autres frais, évidemment. Il reste rien, quoi.
Ouais.
Tu te dis, mais comment faites comment, quoi.
Ouais.
Donc, voilà.
Donc, c'est un bon flux d'histoires concrètes des gens de tous les jours. C'est les permanences sociales, quoi.
Mmh.
C'est crucial, parce que, pour le coup, si je ne me trompe pas, et encore une fois, je parle tout à la correction, parce que je n'ai pas prétention à savoir exactement les choses. Vous avez l'ambition de représenter une partie de la population qui particulièrement est tellement précarisée qu'elle n'a pas accès à ces moyens de communication. Exactement.
Mmh.
C'est une difficulté par rapport à, je sais pas, le cliché du PLR qui, en gros, s'il a envie de quelque chose, il n'a qu'à se manifester.
Ouais.
Et donc, comment est-ce que vous allez... alors, les permanences sociales, j'entends bien, mais il faut déjà s'y rendre.
Mmh.
Y a un bon... Je crois que la statistique est assez juste. Hein. Un bon 10%, à mon avis, de la population, même les permanences sociales, elles n'y vont pas. Elles n'y ont pas accès. Elles sont out du système. Tu ne les vois même pas, en fait. Ils sont en dessous du radar.
Mmh.
Comment est-ce qu'on accède à ces gens-là, en fait? Et est-ce que c'est une de vos prétentions, au sens objectif du terme, une de vos ambitions d'y avoir accès? Est-ce qu'il y a quelque chose d'actif aussi? Pas seulement de recevoir les informations qui viennent, mais aussi d'aller les chercher, je ne sais pas...
Bon, déjà dire qu'on est en relation aussi avec des organismes sociaux comme le CSP, comme ça, qui
eux sont actifs.
Qui sont actifs.
Au sens,
qui transmettent nos coordonnées à ces personnes-là. Par exemple, pour les impôts, on en reçoit chaque année des personnes qui sont envoyées et qui sont dans des situations parfois assez difficiles. Et quand même, les impôts, rien qu'à la section Chaux-de-Fonds, c'est entre 400 et 500 déclarations par année. Donc, c'est quand même pas rien.
Non.
Après, c'est sûr qu'il y a une partie de la population à laquelle on n'a pas accès, qu'on aimerait représenter d'une certaine manière, mais qui, à la limite, soit ne sont plus du tout intéressés par le système politique, voire qui votent à l'extrême droite, parce que par désœuvrement, par impression d'être déqualifié dans un monde qui ne se préoccupe plus d'eux. Donc oui, c'est un objectif, mais en même temps, c'est un objectif qui est très difficile à atteindre. Comment faire? On fait des démarches. Par exemple, il y a une catégorie de la population qu'on espère qu'on souhaite aider, on va dire, à avoir accès à la politique et donc faire entendre leur voix. C'est les populations de migrants et de ceux qui n'ont pas encore leur permis, leur droit de vote, etc. Alors, on est en contact avec des associations, on discute, on a des membres de ces associations qui font partie des membres du POP. Donc on essaye par ce canal-là aussi d'avoir accès à ces personnes qui souvent sont aussi des très précarisées,
particulièrement,
qui ont accès à rien, qui n'ont pas le droit de vote. Donc on s'occupe, c'est quand même c'est de l'énergie entre guillemets d'un point de vue électoral perdue, mais on essaye d'aller dans ce sens-là. Après, c'est extrêmement compliqué. On sait que maintenant Quand on va sur un marché, par exemple, aller parler avec les gens, eh ben, c'est pas la majorité qui souhaite parler aux gens, hein, aux politiciens ou aux militants. Donc, c'est un vrai enjeu, et c'est un vrai enjeu qui dépasse largement la question du POP, mais un enjeu de cohésion sociale. Comment on arrive encore à faire société quand les gens sont tellement déclassés ou sont tellement individuels, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui, en fait, on s'en fiche de tout, hein, et c'est leur vie, c'est leur petit microcosme, et puis ils vont pas plus loin. Donc, comment réussir à toucher ça, puis à montrer l'importance du social, du politique, pour réussir à former une société, là, c'est une vraie question, mais qui est pas que populiste.
Tu parlais de l'extrême droite, vers laquelle certaines de ces populations déclassées sont tentées. Comment est-ce que tu la considères, l'extrême droite? Est-ce que sur certaines des problématiques sociales, vous voyez des points d'ancrage qui pourraient être similaires? Est-ce que c'est pas pour faire le parallèle, le mérite d'exister, parce que franchement, c'était assez impressionnant à l'époque, un gouvernement de coalition, pour prendre l'exemple vraiment cliché, hein, genre à l'italienne, où t'as la Lega et les Cinque Stelle, qui sont quand même des partis opposés du spectre politique, en tout cas en théorie, qui se mettent ensemble, parce que il se trouve qu'ils ont des points concrets, des décisions concrètes qu'ils ont en commun. Est-ce que c'est quelque chose, je dis pas qu'ils tentent, est-ce que bientôt vous allez faire une alliance avec l'UDC, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est est-ce que sur le plan juste théorique, c'est une possibilité en fait. Est-ce que tu peux engager, est-ce que tu peux te faire l'avocat du diable et comprendre pourquoi ces personnes-là sont tentées par ce genre de discours?
Bon, déjà là, j'ai directement, quand on parle d'extrême droite, ma casquette d'historien qui revient aussi. Dans certains événements historiques assez catastrophiques, c'est justement une sorte de complaisance vis-à-vis de l'extrême droite qui a aussi mené à des catastrophes d'envergure. Je pense évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, c'est un exemple assez
fort. Je peux sortir la même chose avec l'extrême gauche.
Non, je parle pas de responsabilité ou comme ça. Ce que je parle, c'est de... Il y a des gouvernements bourgeois qui ont préféré laisser l'extrême droite de côté pour s'opposer au communisme, parce qu'ils avaient plus peur du communisme, et ça a laissé toute la place à l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Si on lui laisse...
C'est quoi l'extrême droite?
L'extrême droite, c'est une bonne question. c'est les partis qui déjà se renferment et qui pensent qu'une certaine catégorie de la population sont supérieures à d'autres pour X ou Y raisons.
En général, supérieure dans quel sens?
Pas qu'on plus de droits, c'est-à-dire qu'un Suisse, quelqu'un qui a un passeport avec une croix blanche a plus de droits, a plus de légitimité d'être sur un territoire que quelqu'un qui ne l'a pas, par exemple. Et donc l'extrême droite, c'est ça, c'est faire des hiérarchies entre les différentes populations. C'est pas que ça, mais si on prend
c'est difficile. À brûle pour point comme ça de sortir une définition, je te mets pas.
Non, mais surtout qu'il y en a pas, il y en a pas de définition. Mais ça évolue avec le temps. Mais c'est aussi après un leader charismatique. Mais là, on peut retomber aussi sur des comparaisons avec l'extrême gauche. Mais donc, tout ça pour dire que pour moi, la complaisance avec l'extrême droite est extrêmement difficile. Donc, dans mon engagement politique, moi, je ne peux pas travailler avec eux. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne veux pas, même si je peux partager des fois des problématiques, je peux discuter avec des membres. Mais d'un point de vue, on va dire, global, c'est quelque chose auquel je fais très attention parce que voilà, c'est aussi une manière de les légitimer. Après, pour parler des combats, il y a évidemment des questions où l'extrême droite détecte des problématiques qu'on détecte aussi et sur lesquelles on est, on va dire, sur l'identification du problème, on peut être sur la même longueur d'onde. Par contre, c'est les réponses et l'analyse qu'on va donner qui va être complètement différente. L'UDC, sur plein de questions, et la réponse principale, c'est de la faute à l'immigration, c'est de la faute aux étrangers. Nous, on va avoir une autre grille d'analyse qui va plutôt aller du côté des rapports de force.
C'est de la faute du patronat, quoi.
C'est en partie de la faute au patronat, ça c'est clair.
La dynamique de responsabilisation, elle focalise sur un autre groupe social, mais est-ce qu'il n'y a pas une similarité là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Le côté bouc émissaire, mais
la grande différence.
La réponse est là, quoi.
Ouais, c'est eux. Les inégalités sociales, c'est clair. Si on prend la question du dérèglement climatique, l'UDC va dire que c'est de la faute à l'immigration qui force à bétonner, etc. Nous, on va dire, regardez, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a plus de moyens, va polluer 10 fois plus que quelqu'un qui n'en a pas.
Ma question d'avant, qui était peut-être trop longue, c'est est-ce que c'est conciliable les deux? De dire c'est l'un et l'autre. Ou au contraire, aucun des deux. mais de la responsabilité individuelle de chacun. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est modulable en fait, ou est-ce qu'il y a une doxa que je retrouve dans plein d'autres parties, hein. C'est pas, je veux pas te mettre dans un cube, t'as compris, hein. De dire non, c'est juste mort en fait, c'est impossible. Jamais on s'alliera, même sur un projet de loi, avec ces types parce qu'ils ont cette étiquette là. Je sais pas si demain il y a une loi sur laquelle justement sur un de ces points d'ancrage commun.
Typiquement, si on prend la première loi climat, la loi CO2, on avait des mots d'ordre similaires, mais on n'a jamais fait campagne ensemble, on n'a jamais été alliés sur cette question-là. C'est une alliance de circonstances, mais on fait pas campagne ensemble.
Vous votez la même chose, mais vous ne faites pas campagne ensemble.
On fait pas la même chose parce qu'on dit.
Vous votez.
Alors, on vote la même chose. On recommande de voter parfois la même chose, mais pour des raisons complètement différentes. Et c'est ça qui compte. C'est pas. On apporte des réponses et des visions très différentes en constatant parfois, c'est vrai, les mêmes problématiques. Mais pour moi, comme je le disais avant au début, la complaisance avec l'extrême droite est extrêmement dangereuse. Et donc, moi, je personnellement, en tout cas, je m'engage pas dans cette voie-là et mon parti non plus.
Même s'il y aurait des avantages électoraux, etc., c'est une question de principe.
C'est une question de principe. Après, il peut y avoir, typiquement, il y a eu au Grand Conseil des objets qui ont été apportés en commun. Ça a pu arriver. Personnellement, moi, je suis pas favorable. Après, c'est vrai que d'un point de vue électoral, si on voit la politique comme une fin et puis qu'il faut trouver les bons moyens pour y arriver, c'est vrai que ça peut parfois être utile les alliances contre l'establishment. Ça, c'est clair. Mais moi, en tout cas, je suis pas dans cette optique-là.
Sur ça, sur la question de la fin et des moyens, si je fais le parallèle avec... Alors, je vais poser une autre question. Tu disais avant qu'on assimile souvent, surtout quand on ne connaît pas les particularités de Neuchâtel, franchement, le POP, avant d'arriver à Neuchâtel, moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, je me disais, c'est la gauche. Facile, hein ? Extrême droite, droite, gauche, extrême gauche, bon, communiste, socialiste, libéral, et puis extrême droite,
fasciste.
Voilà, ouais, fasciste, ouais, exact, pour prendre vraiment les clichés. C'est quoi la distinction entre le POP et un parti communiste traditionnel, au sens où on l'entendait jusqu'à il y a quelques années?
Bon, alors là,
est-ce qu'ils se distinguent, ou est-ce que c'est le nom qui change, ou est-ce que...
Oui, bien sûr qu'ils se distinguent. Ouais. La question, déjà, elle est compliquée parce qu'elle nécessite de définir ce que ça veut dire communiste.
Qui était évidemment celle qui venait après, qui aurait dû venir avant, mais qui venait après. parce que je voulais d'abord qu'ils me disent est-ce qu'il y a un lien, puis après je dis ok, mais alors ça veut dire quoi?
Alors, pour faire d'un point de vue historique, il y a eu un lien, évidemment, ça c'est clair, on peut pas le nier. Après, en Suisse, donc le Parti communiste a été interdit. Et après, pour le POP, c'était en 1944, des sections de gauche radicale ont de nouveau vu le jour sous d'autres noms, parce qu'à cette époque-là, il n'était pas possible de prendre le nom de Parti communiste. Et c'est vrai que même au sein du POP, il y a des tendances très différentes entre les sections. Il y en a qui se revendiquent beaucoup plus du marxisme-léninisme classique et d'autres beaucoup moins, dont celle du POP neuchâtelois. Nous, assez rapidement, notamment après le coup de Prague, là, on a pris nos distances avec l'URSS. Et ça fait donc depuis un certain temps qu'on est assez éloigné de cette ligne dure, on va dire, cette ligne marxiste-léniniste au POP neuchâtelois, même si, en disant ça, et si certains de mes camarades m'écoutent, ils vont pas du tout être d'accord avec ce que je dis, et puis qu'eux voudraient plutôt un renforcement de la doctrine, et puis voilà. Mais majoritairement, le POP neuchâtelois a plutôt été de cette tendance-là. D'ailleurs, dans nos statuts, on est un parti d'inspiration marxiste, mais aussi socialiste et éco-socialiste. Donc, avec une assez large ouverture, on va dire, sur les différentes pensées de gauche, pour les classer comme celle-là. Et je crois que c'est ce qui a fait la force du POP neuchâtelois, c'est que notre discours a été clair sur ces questions-là. Et pour avoir des résultats électoraux comme ça, quand même, ça montre que pendant longtemps, évidemment, on nous disait, de toute façon, t'es communiste et machin, tourne vers Staline ou vers l'URSS.
C'est ça, en fait. En fait, ça se distingue dans sa frange, en fait, quoi, anti-staliniste, décentralisé.
Alors, nous, on est clairement pour une décentralisation. Ça, pense que c'est un des points principaux. Et puis,
finalement, ouvert au compromis, tu dis, ouvert au socialisme, ouvert éco-social, etc. C'est pas la ligne dure de...
Non, alors, on n'a pas cette ligne dure. Ouais. Et puis, souvent, ça, je reprendrai les paroles de mon prédécesseur, mais on est aussi là pour rappeler où est la limite de la gauche et de rappeler notamment au Parti Socialiste de garder ses valeurs gauche.
C'est un garde-fou.
Donc, hein. Ouais, y en a qui le voient comme
ça. Sauf le respect du Parti Socialiste.
Non, mais moi, j'ai un grand respect pour en tout cas beaucoup de membres du Parti Socialiste, pas forcément pour toutes les décisions politiques qui ont été prises ces dernières années, mais moi je suis pas pour la guerre des gauches et savoir qui c'est qui est la meilleure gauche. On peut nous reprocher des choses, comme j'ai entendu Romain la dernière fois, un certain manque de pragmatisme au POP. Moi je trouve que c'est plutôt une qualité d'être trop idéaliste, mais effectivement quand si tu veux changer la société et prendre le pouvoir, c'est quand même ça la question, hein, in fine. Je peux entendre la critique, mais je pense que la force de la gauche, c'est d'être plurielle et d'avoir différentes tendances, qu'elles soient vertes, qu'elles soient socialistes, qu'elles soient popistes, pour pouvoir aborder les questions sous toutes ces dimensions. Nous, on forme un groupe au Grand Conseil avec les Verts. Je trouve que c'est un groupe qui fonctionne très bien parce que les Verts sont très compétents dans les questions écologiques. Ils ont beaucoup de personnes, de députés qui connaissent très très bien ces thématiques. Et nous, souvent, on est là, attention, là, oui, ça, c'est une bonne idée, mais attention à la composante sociale. Il ne faudrait pas renforcer les inégalités.
Ça fait une sorte d'équilibre qui se complète mutuellement.
Je pense. Ouais. Et puis finalement, les projets, ils s'enrichissent.
Voilà. Encore la politique du compromis.
Le compromis, c'est pas grave. De toute façon, si on veut faire une société qui fonctionne, il faudrait bien écouter ceux qui sont pas d'accord avec nous, en tout cas jusqu'à un certain point. Après, c'est la limite entre le compromis et la compromission.
Ouais.
Faut pas trahir.
C'est tellement difficile à
attendre. Évidemment. Et on n'est jamais à l'abri. Pour revenir au Parlement, on doit prendre tellement de décisions, il y a tellement d'amendements, d'enjeux et de sujets différents. C'est sûr que sur certains, forcément, tu passes à côté de l'enjeu. On est 8, on connaît pas, il y a des dossiers extrêmement complexes. Donc, comment ça va donner au moment où tu prends une loi, est-ce que ça va donner dans son application? Des fois, c'est vrai que on peut se planter.
Comment est-ce que ça a évolué, ça, depuis le temps de ton premier engagement en 2001 en politique? Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais un peu plus jeune, moi, j'ai pas non plus 60 ans, mais j'étais plus militant, plus véhément, plus engagé, et puis j'ai changé d'avis tellement de fois depuis que je me suis dit, mais en fait, je sais pas. Et du coup, je vais écouter les gens me dire ce qu'ils pensent, et puis on verra bien si je dois prendre une décision un jour. Mais si je m'étais engagé à 16 ans, je me serais probablement engagé au POP, et puis si je m'engageais maintenant, ce serait probablement ailleurs. Du coup, comment est-ce que, parce que j'imagine, c'est peut-être une présomption erronée, que tout le monde passe un peu par ses chemins de vie, comment est-ce qu'on fait avec ces doutes qui viennent quand même avec le temps pour garder la ligne, ou au contraire, on ne va pas revenir sur le thème du compromis, mais au contraire, je ne sais pas, s'adapter et pas être dans le déni non plus?
Ouais, c'est une très bonne question, mais je dirais déjà, j'en reviens à la base de mon combat, c'est la lutte contre les injustices. Donc, à partir de ce champ-là, j'essaye d'analyser à chaque fois les décisions qu'on est amené à prendre. Est-ce qu'elles vont dans un sens qui renforce les inégalités, par exemple, ou qui les diminue? J'essaye toujours de me poser ce genre de questions avant de prendre une décision, de proposer une prise de position. Après, c'est sûr que c'était en 2003, en 2004, il y a Blocher qui est venu à la Chaux-de-Fonds faire un congrès pour l'UDC national. Moi, j'étais tout devant les grilles avec le jet d'eau de la police dans la tronche en février. Et donc, je me suis retrouvé à grelotter. J'étais une petite grand-mère qui est venue m'apporter une couverture pour éviter que je ne gèle. Est-ce que je ferais ça encore aujourd'hui? Peut-être pas forcément, c'est clair. Je me suis sur ces questions-là, peut-être que je vois moins moins d'effets en procédant de la sorte qu'en essayant de le faire d'une autre manière. Mais ce qui ne veut pas dire que l'énergie de la jeunesse n'est pas nécessaire pour faire aussi avancer les choses. Et je pense que c'est de nouveau.
Et ce qui ne veut pas dire non plus que tu as renoncé à quoi que ce soit. C'est juste dans la forme que tu lui donnes à cet engagement qu'il y a peut-être une modification, si je comprends bien.
Oui, absolument. Et puis, il faut aussi voir le sens. après, on peut pas parler et puis faire de la politique fiction. Est-ce que, par exemple, je serais devant le char
bien sûr.
Chine, j'en sais rien. Je veux pas dire que oui, je l'aurais fait ou ouais, non, je l'aurais pas fait.
Merci de ne pas prendre cette route-là parce que tout le monde serait résistant.
Voilà. Ouais. Donc, honnêtement, ça dépend des situations. J'ai quand même, j'ai le profond sentiment qu'en mon fort intérieur, si la situation le nécessitait, bah, je serais quand même dans ceux qui essayeraient de faire des choses. Mais bah, voilà, je pense que là, dans le système politique suisse, c'est pas forcément non plus la méthode la plus efficace. Je pense que déposer des interventions, même si des fois elles sont pas écoutées ou pas directement écoutées, ça a quand même un effet. Et puis, bah, je pense que j'ai eu un effet en me mettant devant l'UDC à la Chaux-de-Fonds et devant le jet d'eau de la police à l'époque, à un certain niveau, mais j'en ai d'autres maintenant dans le Parlement où je peux modifier des lois, je l'ai fait déjà. Le plan climat, ben, j'ai été très actif en commission. Il y a des amendements qui sont entre guillemets mes amendements, mais c'est toujours un travail collectif évidemment. Mais voilà, il y a vraiment moyen de faire bouger les choses, et ça aussi un impact qui est peut-être en tout cas autant fort, même si ben, c'est du travail qui se voit pas en fait. Donc voilà, j'ai pas de bonne réponse. Je pense que les deux sont nécessaires. À la fois la rue et à la fois du travail, peut-être qu'on voit moins, qui est moins spectaculaire, mais qui est aussi nécessaire.
Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à est-ce que tu ferais partie des gens qui sont, est-ce que tu serais ce type devant le char. J'avais vu une très bonne vidéo sur YouTube où tu vois la perspective du type qui est dans le char. Et je sais pas si tu sais, mais à l'époque, probablement t'es mieux informé que moi même, ils avaient fait bouger des divisions qui étaient des divisions locales autour de Tiananmen, donc des Pékinois, des réservistes de la région de... Et puis ils voulaient pas tirer sur la foule. Alors ils ont dû faire venir des brigades de Mongolie intérieure qui, elles, n'étaient pas du tout proches.
Ça, c'est une vieille stratégie. Il y a eu la même à la Révolution française.
Mais je trouvais intéressant de voir la perspective du type qui est dans le char. Parce que finalement, pour lui non plus, c'est pas facile. Et tu vois bien qu'il hésite dans cette fameuse vidéo à rouler bien dessus. Sûr, il a pas sûr. Envie. Il essaie de l'éviter. Et on a toujours la vision du héros qui est devant et qui vraiment offre son corps presque nu à une montagne de ferraille. Et en même temps, ben, c'est une situation où tout le monde est dans la merde. En fait. Ce qui rejoint, à part ça, un peu la doctrine beaucoup marxiste de les deux c'était des prolétaires et puis en fait c'était pas là qu'était l'ennemi en fait.
C'est effectivement ce qu'on dit dans les conflits, c'est des ouvriers qui se tirent dessus au profit du patronat des deux côtés. C'est la phrase Valéry, je crois, mais peut-être que l'attribuer à tort à Valéry, j'en sais rien, mais que la guerre c'est des camps, c'est des personnes qui se tuent, qui ne se connaissent pas, au profit de personnes qui se connaissent mais qui ne font pas la guerre. Je l'ai dit très mal, mais
non, mais on comprend l'idée.
L'idée là.
Mais je fais vraiment des trop longues questions. Mais ma question principale, c'était maintenant que tu as aussi des intérêts individuels, du style la famille. Comment est-ce que ça a changé le combat politique, le fait que ben, ok, on serait peut-être résistant, mais moi, si on menaçait la vie de mon fils pour vendre les juifs, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Je vais pas prétendre que je serais ce juste au risque de la vie de toute ma famille, tu vois. J'en sais rien. Donc là, on fait pas de politique fiction.
Et puis on peut même discuter de qu'est-ce qui est le plus. Ben, évidemment, sauver la vie de quelqu'un, c'est juste, mais mettre en danger toute sa famille parce qu'on a voulu sauver quelqu'un sans même savoir l'effet de son action, ben, honnêtement, là, j'ai pas la réponse. Évidemment, les deux ont une certaine forme de justice, une forme de courage, mais ben, finalement, les effets, on peut pas les mesurer. Donc,
la question, elle est pas, évidemment, cet extrême que j'ai pris juste pour caricaturer, c'est revenu à notre perspective à nous, en tout cas, celle de ta vie. Comment est-ce que le fait d'avoir une famille, d'avoir maintenant, ben ouais, ça prend du temps, de l'énergie, etc. Est-ce que ça a changé ton engagement? Pas sur le fond, hein, mais sur, je sais pas, le temps que tu as y accordé ou la priorité que tu donnes, ou est-ce que ça te fait hésiter, par exemple, à te représenter ou...
Alors, ça me fait pas du... je prends les choses dans le désordre. Je dirais déjà, depuis que je suis président du parti cantonal et député, j'ai jamais pris autant de temps pour la politique. Il y a des semaines, bah là, par exemple la semaine du 1er mai, sans compter le 1er mai, j'ai siégé 22 heures dans des commissions, au Parlement, etc.
Donc, et ça, c'est donc après ta parentalité, d'accord.
Oui.
Après,
ouais. Donc sur 4 jours, 22 heures, voilà, c'est pour dire quand quand même l'ampleur du mandat qui est celui de député, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail. Donc non, je dirais pas que je suis moins engagé, je suis sans doute différemment, rien que parce que le week-end je suis avec les enfants, je m'occupe d'eux, la semaine je suis pas hyper présent, j'essaie de l'être, mais je rentre tard le soir et des fois j'ai des séances,
faire des podcasts pour encore de gratter deux heures.
Mais comme ça les enfants sont à bout de riz chez leur grand-maman, donc ils sont très contents, ça il n'y a pas de souci. Mais j'essaie d'être présent le week-end, ce qui fait qu'aussi je suis moins présent de facto. On fait souvent des choses le week-end, aller sur militer sur le marché le samedi matin ou des séances, etc. C'est vrai que des fois je dis non, je dois dire non parce que c'est pas possible de tout faire, et puis qu'après à un moment je pense aussi qu'on se perd dans le militantisme, de se donner tout le temps pour une cause, c'est magnifique, mais si on veut durer, moi je dis souvent que c'est un marathon, on fait pas un sprint, donc j'essaye aussi de ménager ma monture et puis de mettre mon engagement là où il est actuellement nécessaire. Gérer un parti politique, c'est une grande responsabilité, alors ça fait moins de travail sur le terrain, c'est vrai, mais c'est aussi nécessaire, c'est aussi plein de séances, plein de discussions, de réflexions sur comment on arrive à essayer de faire progresser, avancer ce parti, et puis aussi à maintenir sa cohérence, qui est jamais facile. On a des sections locales, une section fédérale, nationale, donc les enjeux sont ailleurs, mon engagement s'est transformé, c'est vrai, il est plus en séance, des fois trop en séance, des fois je le regrette, et un peu moins sur le terrain, ça c'est clair. Après, on est un petit...
Tu peux vraiment faire autrement?
Moi, je pense pas. Franchement, si je devais aller faire tout le travail de terrain, puis aller récolter des signatures et tout ça, je pense qu'à un moment, j'arrêterai la politique parce que c'est trop d'engagement.
T'as déjà été tenté?
J'ai jamais été tenté parce que pour moi, c'est vraiment... J'ai besoin d'essayer à mon modeste niveau de faire quelque chose pour faire avancer la cause. Mais par contre, arrêter, que ce soit un mandat électif, comme soit le conseil général, ce que je viens d'arrêter en 2022 parce que j'avais plus le début 23 même parce que j'avais plus le temps, ou des fois c'est vrai que la présidence d'un parti comme le POP qui t'apporte en guillemets relativement peu d'honneur, c'est pas ce que je recherche, mais t'es pas très mise en valeur et beaucoup de choses, beaucoup de problèmes à régler. Oui, alors des fois je me dis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, tant mieux, il y a pas de souci, prenez le relais. Donc on est un tout petit parti qui fonctionne vraiment sur très peu de membres. Tous les travaux, toutes les activités militantes sont nécessaires. Mais je considère par exemple la présidence du parti comme aussi une activité militante. C'est une autre forme de militantisme, mais c'est la même chose. Je prends aussi mes soirées pour faire des choses. Je relis des PV, je prépare les ordres du jour, je discute avec le bureau pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure décision à prendre ou comment analyser telle situation, comment réagir à tel événement.
T'écoutes ô combien de types parler très longtemps pour dire des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mon Dieu. Je t'avoue que je t'envie pas. Pour ça,
ça peut arriver relativement régulièrement. Ouais. Non, mais ça fait partie de la partie du travail. Il y a des gens qui ont leur... C'est aussi, on parlait avant de comment on a accès aux problèmes, à d'autres visions de la société ou des problèmes qui existent. Et c'est aussi d'écouter des gens qui ont une autre conception et qui se disent, mon problème, moi, c'est ça. Alors des fois, c'est problématique parce que en guillemets, c'est pas dans la ligne du parti, c'est pas dans les priorités du parti. Typiquement, il y a des gens qui, leur problème, c'est le parcage dans une ville. Nous, on défend plutôt le fait que les voitures, il faut les mettre à l'extérieur des villes et puis développer les transports publics à l'intérieur. Mais si quelqu'un trouve que ce problème-là, il est prioritaire pour lui, on doit en tout cas l'écouter et en tout cas débattre avec lui pour lui dire, nous, on pense pas parce que si. Il y a peut-être sur ce point, t'as raison, mais jusqu'à un certain point. Ça fait aussi partie de la richesse du débat que d'écouter des sujets qui, a priori, sont pas ceux qu'on a envie de traiter à ce moment-là.
T'as failli le dire, que c'est aussi parce que t'aimais bien te sentir utile que tu t'engageais là-dedans. Je sais pas si j'ai sorti les mots de ta bouche qui n'y étaient pas ou quoi, mais en tout cas, un certain apport à la communauté. C'est la raison de ton engagement aussi. Dans quelle mesure est-ce que c'est dû à une forme de... Et encore une fois, il n'y a pas de morale derrière. La limite est ténue entre la responsabilité et la culpabilité. Est-ce que tu te sens responsable ou coupable d'un privilège que tu as eu de vivre dans ce pays, de pas forcément être confronté, à part peut-être un peu plus tard, à la pauvreté ou à des conditions les plus difficiles? Est-ce que ça joue un rôle dans ton engagement?
Alors déjà, je reviens sur le être utile. Je dirais plus...
C'est utile quand même.
Oui, oui, non, mais je dis pas ça, c'est sûr. Mais je dirais plutôt ce qui est mon moteur, ce qui me motive, c'est d'être acteur justement de ce qui se passe autour de moi. Alors, j'ai pas besoin de me sentir utile dans le sens où j'ai envie que les gens me disent, ah bah bravo, t'as été super ce que t'as fait. C'est pas ça le sens de mon engagement, c'est plutôt, bah ouais, de participer aux prises de décision, d'essayer d'apporter ma petite touche, quitte des fois à me planter, ça c'est clair. Par rapport à la responsabilité, alors en tout cas je me sens pas coupable d'être un homme blanc cisgenre privilégié dans un pays riche. Non, je me sens pas coupable parce qu'il y a pas, à mon avis, il y a pas à l'être. On choisit pas où on est, on choisit pas qui on est. Par contre, on peut choisir qui on devient. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une forme de responsabilité. Moi, je suis père aussi. J'essaie d'inculquer des valeurs à mes enfants. J'essaie de faire qu'on puisse aller vers une société plus résiliente, plus égalitaire, plus juste. Après, bah, je suis responsable jusqu'à dans les limites de mes moyens. C'est-à-dire que alors quand je mène un combat politique, si je le perds, si j'arrive pas à convaincre, bah, ça me fait pas plaisir. Je peux ressasser le soir, ça m'arrive, et dire ah mince, là j'aurais dû le dire comme ça, ouais j'ai pas été clair, etc. Ouais. Ça peut m'arriver, mais par contre le lendemain,
mais avec une perspective pour la prochaine fois,
ouais, pas refaire. En vue de m'améliorer, ouais. ce qui est toujours possible. Et puis après, par contre, je me réveille le lendemain. Et je parle avec les mêmes personnes qui certaines m'ont peut-être agacé, voire franchement mise en colère, ben c'est bon, on recommence. De toute façon, ben voilà, la politique, c'est, en tout cas sous sa forme parlementaire, c'est aussi ça. On se confronte des idées, et des fois on gagne, des fois on perd, et puis bon, qu'on est au POP, souvent on perd, hein. Soyons clairs, mais voilà, je pense que c'est aussi pour faire de la politique, il faut aussi avoir cette faculté d'être un peu résilient, et puis de pas, si tu ressasses tout et puis que tu prends tout sur toi, tu pètes les plombs hyper rapidement.
Bon, il y a aussi une potentielle appréciation morale que tu peux avoir de la situation, de justement dire cette résilience là, c'est une forme de, c'est romantique quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est vous êtes seul contre les éléments, contre ce système qui n'est pas complètement à l'écoute de ces problématiques, mais pour les petites gens, côté un peu martyr, qui peut être encore une fois sans connotation normative, bien ou pas bien, en tout cas qui peut appeler à certaines des raisons pour lesquelles tu le ferais.
Ouais, je pense, et il y a des débats où on a cette posture là de facto, on va dire, c'est bah, on sait qu'on va pas gagner tel combat, mais de dire qu'il y a aussi d'autres conceptions des choses, d'autres visions, qu'il y a des pauvres gens qui vont subir cette décision-là. Et puis oui, ça c'est clair que ça arrive. Ça a un petit côté matahari, un petit côté martyr, mais c'est aussi hyper important de le dire.
Faut la voir. Mais il faut que pour qu'elle soit après ignorée, mais il faut qu'elle existe.
Et puis ignorée, moi, en tant qu'historien, je retourne à mon autre passion, mais je travaille aussi quand même pas mal avec les procès-verbaux. Si personne n'a rien dit, on a l'impression que la décision, elle est passée comme ça. S'il y a quelqu'un au moins qui dit, alors ça va pas parce que ça.
C'est ce que je voulais dire.
Au moins, ça met des mots sur une problématique.
Exactement. Même si c'est pas pris en considération pour la décision, ça aurait été dit. Et donc au moins ça existe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un martyr au sens on veut disparaître et se détruire. Ouais. C'est vraiment parce qu'il faut que quelqu'un le dise et puis après on verra bien.
Et puis mine de rien, il y a eu des thématiques où on n'était pas du tout d'accord avec la droite, voire même avec la droite et puis de la gauche. En disant les choses, souvent on gagne pas. Hein. Ça change pas le vote des personnes en face. Mais par contre, après, j'ai déjà eu souvent des discussions avec des personnes qui disent, ouais, mais c'est intéressant cette perspective, t'as raison. Alors là, on a fait comme ça, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça. Alors, est-ce que ça a un effet sur un autre vote ou quelque chose? Pas forcément, mais typiquement dire des choses, notamment dans les commissions ou comme ça, juste soulever des perspectives, bah, c'est important. Parce qu'après, on se dit, ah, attends, quand même. Il avait dit, eux, ils existent.
C'est ce qui gratte un peu, on va quand même le prendre.
Donc, moi, je suis assez persuadé que ça, même si les gens ne vont pas le dire forcément directement, au moins ça peut donner que ça, pas tout le temps, je veux pas dire que ça a un effet révolutionnaire, hein, c'est clairement pas le cas, mais ça peut avoir des effets, et puis sur le long terme ça met quand même, certaines populations, bah, si on reprend les ouvriers ou les pauvres, les plus pauvres, bah, si on n'en parle jamais, parce qu'on n'a pas cette conception-là, parce qu'on ne l'est pas, parce qu'on ne les connaît pas, eh ben, on n'en parle jamais, donc ils ne sont plus là, en fait. Ils ne sont même plus pris en considération dans les décisions politiques. Si au moins il y a un parti qui dit, hey, là, franchement, il y a des gens, là, on parle de faire ça, mais il y a des gens qui sont à la situation, ils ne sont même pas capables de payer un plein d'essence, parce qu'avec l'inflation, ils ont plus les moyens. Donc ils ne prennent plus la voiture, donc ils restent chez eux. Rien que ce discours-là, il est, à mon avis, essentiel pour avancer au moins un peu dans le bon sens, pour au moins rendre présent ces personnes.
Ouais.
Mais effectivement, c'est plus de l'ordre du... Ouais, c'est un côté... pas martyr dans le sens effectivement du sacrifice, mais c'est un côté, bah voilà, on est un peu seul des fois contre tous, on est 8 hein, au Parlement, donc voilà. Après, de nouveau, j'en reviens au fait de former un groupe et puis une alliance. Bah, typiquement, il y a eu plusieurs dossiers où nos alliés ont posé telle proposition. On a dit, mais peut-être qu'on pourrait rajouter ça. Et puis, ils l'ont fait. Bah, on l'a fait ensemble, du coup. Et du coup, le fait d'être présent, ça permet de les inclure directement. Il n'y a pas besoin d'aller... Parce qu'on sait que quand on a fait une proposition en tant que parti, on ne va pas la modifier forcément si quelqu'un nous dit, mais vous n'avez pas pensé à ça. Alors que si on le fait en amont, bah, ça permet quand même d'en tenir compte. Après, de nouveau, hein, il faut relativiser les faits, c'est pas non plus on n'a pas toujours l'effet qu'on voudrait, mais quand même je pense que c'est quelque chose d'important qui permet d'améliorer quand même des conditions de vie, ou en tout cas de pas les laisser trop se péjorer sans avoir réagi. Ça, je pense c'est important.
Moi, je vais te poser encore deux questions, puis après je vais te laisser tranquille parce que je pense que c'est l'heure de gentiment rentrer. En tout cas pour moi aussi. La première, c'est est-ce que avec tous tes mandats, député, de doctorant, de papa, pas vraiment un mandat ou alors un mandat du ciel, j'en sais rien. Est-ce que
pas pour un popisme, mais
t'as le temps encore. Après, il faudrait qu'on ait toute une conversation sur la religion une autre fois, c'est vrai. Ou son absence. Est-ce que tu as le temps d'être encore curieux sur d'autres choses? Est-ce que tu as le temps de lire, par exemple, sur, je sais pas, ne serait-ce qu'actualiser la doctrine sur telle problématique de société? Est-ce que tu as le temps, en fait, de t'informer encore en dehors de ce qui doit être la manutention, en fait, de garder le même level de doctorant, de politicien, et de... T'as le temps d'avoir encore des inputs de l'extérieur.
Bon. On a un peu parlé, mais relativement... On n'est pas rentré dans le détail sur ma première passion, qui est celle de l'historien. Je lis un nombre d'articles ou d'ouvrages quand même assez élevé, qui offre aussi des perspectives sur la compréhension de plein d'aspects ou de questions que j'avais pas forcément, ou des nouvelles manières d'analyser pour l'historien d'abord, mais aussi pour la qu'on peut utiliser plus largement. Donc à ce niveau-là, en tout cas du point de vue de l'historien, oui, ça c'est sûr, il n'y a pas le choix, parce que ben voilà, on peut pas s'arrêter à un moment et puis ne pas tenir compte de ce que publient les collègues, etc.
Non, mais clair, mais ce qui ressort de ça, par exemple, je sais pas, tout d'un coup de l'économie ou des sciences sociales, enfin des sciences de la science politique, ou il y a un ouvrage sur le Bitcoin, tu vois,
l'histoire des sciences et des techniques est vraiment fascinante et qui prend vraiment beaucoup d'aspects. Donc honnêtement, je me sens assez bien nourri à ce niveau-là. Par contre, alors là, je peux vous rentrer rapport et puis ce que je fais dans mon travail de doctorant, le soir quand j'arrive, je suis lessivé.
T'as pas envie de commencer à jouer un truc sur...
Je ne lis pas du Piketty, voilà. ou je ne sais qui. Je prends, en général, j'aime bien les romans historiques ou l'autre polar, des trucs un peu légers, voilà, pour m'endormir, ce qui arrive en général assez rapidement. Donc j'ai des livres qui restent sur à côté de moi pendant des longues périodes. Là, j'en ai un où j'arrive même pas. Hein. Ouais. Je m'endors tellement rapidement que j'arrive pas à entrer dans la trame.
Les petits, ils se réveillent pas trop tôt.
Bon, alors maintenant, c'est plus un... Ils ont 10 et 12 ans. Hein.
Ah, purée.
Ouais.
Ah, ouais.
Donc, c'est plus un enjeu. Ça, ils savent s'autogérer le matin. Okay. Ils savent allumer la PlayStation s'il faut allumer une PlayStation.
Tu les as eu jeunes, non?
Ouais, relativement. Bah, 12 ans, ça fait que j'avais 24.
Ouais.
Oui, oui. Bah, c'est aussi pour ça que je m'en suis après occupé, parce qu'on n'a pas trop d'autres options.
Ouais.
Mais non, là, c'est, tous les âges sont chouettes. Il y a plein d'âges chouettes avec les enfants, tous les âges sont chouettes. Mais là, c'est vraiment, bah, pour le papa, ça, c'est un peu, peut-être un peu genré comme réflexion, mais là c'est vrai que bah, là c'est le matin tranquille, après on va faire du foot sur le terrain d'à côté, et puis on rentre, et puis selon ce qui se passe, on se fait un petit plateau télé ou un truc un peu tranquille. Voilà,
c'est une vraie personne, quoi. C'est pas moi, je suis encore au stade, c'est un bébé, tu vois.
C'est un bel âge.
Ouais, voilà, c'est trop bien. Tu peux vraiment discuter, ouais. Je pense tes réflexions aussi.
Ah, puis ça commence à être bien.
Tu parles avec une fierté dans les yeux, ça commence à te dire quoi?
Bah, ça commence à bien remettre en cause quand même. Ça, 12 ans, c'est bientôt 13 d'ailleurs, c'est préadolescence, voire début d'adolescence. Ouais. Donc c'est bien sportif des fois.
Ouais, là ça va chier, ouais. Ouais, les prochaines années, ouais.
Donc c'est là aussi où on voit qu'il y a du travail pour. Je parlais d'inculquer des valeurs. Et ben, avec l'école qui vient par derrière, c'est pas toujours facile.
Ouais. Ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que des valeurs avaient été transmises par l'école qui ne correspondaient pas
à ce que tu veux dire? Je parle pas de l'école, mais
qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, entre les collègues, les camarades de classe, ils ont pas tout le monde a les mêmes perspectives, ni les mêmes opinions politiques. C'est vrai que bon, c'est aussi l'âge qui fait, hein, mais typiquement sur le féminisme, voire même sur l'écologie. Alors même s'ils ont plein de valeurs, ils ont le fond, on va dire. Mais bah voilà, on sent qu'il y a quelques petits réflexes qui reviennent qui vont pas forcément dans le sens que je souhaiterais.
Ouais.
Après, ça fait partie du jeu. Hein, on n'est pas. À un moment, c'est eux qui font aussi leur choix, c'est eux qui font leur vie, et on leur donne ce qu'on peut. Et puis, et voilà.
Donc tu dis chez tes enfants, en fait. Tu dis pas forcément dans les autres camarades.
Ah,
si je comprends bien. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'après certaines discussions avec leurs camarades, il y a des réflexes qui... Mais comme tu disais avant.
Je pensais notamment au féminisme. Les relations entre garçons et filles, mais ça fait aussi partie de l'âge. Hein. Peut-être que dans quelques années, ça sera complètement différent. Donc, je ne suis pas non plus catastrophé. Mais c'est vrai que quand j'entends certains propos, certains réflexes et tout ça, je me dis, il y a encore du travail. Quoi.
C'est une obligation de moyens, pas de résultats, hein, pour ne pas faire le juriste. Mais tu peux faire le mieux que tu peux. Et après, j'ai l'impression
que je dis que voilà, ce que tu disais. À un moment donné. Moi, par exemple,
comme pour un projet politique, au bout d'un moment.
Bah, bien sûr. Oh, bah, on dépose quelque chose et puis après.
On lève les mains et puis c'est comme ça.
Il nous appartient plus complètement, ça c'est clair. Mais pour les enfants, par exemple, moi j'essaie pas d'en faire des militants popistes. Alors, s'ils le deviennent parce qu'ils ont envie, bah, je suis très content, évidemment. S'ils font pas de politique, bah, ce sera leur choix. Et puis bah, s'ils vont dans un autre parti, j'espère qu'il sera pas trop loin du
côté. Voilà, c'est ça la question que je voulais demander en dernier. Non. Ouais, t'espères quand même un peu. Hein. Mais tu dois avoir 2-3 potes, tu laisses un peu, non, quand même. Il y a bien 2-3 gars de droite, non? Quand même, dans le cercle. Des types qui sont pas non plus complètement insupportables à tes yeux, qui ont des fois des réflexions un peu dépassées, mais bon, c'est des potes d'enfance, alors tu les as gardés. Il n'y a pas 2-3?
Ah, des potes d'enfance qui seraient
devenus un peu passés du côté obscur, et puis bon, c'est quand même un pote, alors je continue à le voir.
Mais...
Non? Il y a eu une scission comme ça, parce que tu vas pas me dire que vous êtes tous restés POP depuis que vous avez 6 ans.
Je ne dis pas qu'ils sont tous POP, j'ai même des amis verts.
Ouh là là.
C'est dire. Non, j'ai des amis PLR, mais UDC, comme ça, en tout cas, ouvertement UDC. Après, alors, que des gens dans mon entourage ont des réflexions que j'estime complètement déplacées sur une thématique, peut être les étrangers ou comme ça, alors oui, alors ça j'en côtoie, bien sûr. Après, est-ce qu'ils sont UDC parce qu'ils ont dit ça? J'en suis pas persuadé. Mais franchement, des amis UDC d'enfance, hein, j'entends.
Ouais, un type pas... que tu connaissais avant la question politique et puis qui aurait évolué plutôt dans un autre sens.
Ah, j'ai peur.
Après, tu me dirais, s'il a évolué dans un autre sens, forcément, c'était pas le même que le tien, donc il n'y a pas de raison.
Il y a des gens que j'ai pu connaître à un certain âge qui maintenant, on est vraiment très éloignés et puis peut-être qu'ils sont UDC. Non, bah. À ce niveau-là, je dirais, ce qui a été le plus compliqué, c'est quand même le Covid. Le Covid, alors, mais là, je pense que c'était transpartisan, si je peux le dire comme ça. Mais c'est sûr que, à la fois au sein du parti, au sein de la famille ou des amis, là, il y avait vraiment des visions de la problématique très, très, très différentes. Et en tant que président d'un parti politique, parce que j'ai commencé au POP Neuchâtelois en 21, mais avant, j'étais président de la section Chaux-de-Fonds. Ouais, c'était pas la thématique qu'on avait le plus envie de mettre à l'heure du jour, parce que on savait pas sur quoi on allait tomber. Donc voilà, je dirais plutôt sur des objets parfois, mais après, moi je peux très bien parler avec quelqu'un qui est UDC, c'est pas la question. Moi je suis pas.
Il y a pas de fermeture au dialogue en tout cas avec n'importe quelle catégorie de la population.
Absolument pas. C'est pas le.
Cool.
La personne qui est UDC, ça va me questionner. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Si j'ai mon côté historien, mon côté politique, il va dire peut-être que j'avais à mettre dans le droit chemin, mais ça, voilà. Ça, c'est autre chose. Non, moi, c'est vraiment, quand je parle de l'UDC avec laquelle je peux pas m'allier, c'est pas la personne.
Non, je comprends.
C'est la structure. C'est l'institution.
Ouais.
Moi, je mets pas les.
Les individus, c'est autre chose.
Les individus, c'est autre
chose.
Et
ils sont toujours capables de dialogue. T'as pas une personne qui va tenir un propos et qui va dire, OK, toi, je peux même pas te parler.
Non. Non, j'ai pas. Après,
non, c'est pas le cas de tout le monde, hein,
non, mais
surtout dans le cercle universitaire.
Ça dépend du propos, disons. Si tu me dis que si quelqu'un me dit que son rêve c'est d'aller égorger toute une catégorie de la population, là j'ai quand même assez vite avoir de la peine, hein, soyons clairs. Mais disons qu'il y a un débat, s'il y a la possibilité d'avoir un débat, une vraie discussion, plus ou moins sensée, avec des arguments qui appartiennent à tout le monde, moi je suis d'accord d'aller dans ce sens-là. Après, moi, j'ai quand même pas mal. Plus que des amis UDC, j'ai des amis qui sont, je dirais, qui n'ont pas d'idéologie réelle. C'est-à-dire qui font une sorte de mix avec plein de choses. Et des fois, ça peut donner vraiment des réflexions très compliquées. Évidemment, j'ai aucun problème à discuter avec ces personnes, même si des fois, je dois dire, non, bon, écoute, là, tu vas sur un terrain sur lequel je ne peux pas te suivre.
Mais voilà, ça s'arrête là. Ça ne remet pas en question votre amitié.
J'ai jamais eu, pour des raisons idéologiques, une rupture avec quelqu'un. Après, puis même, je parlais avant du travail de commission au Parlement, par exemple. J'ai pas de problème. Je peux parler avec des membres de l'UDC, c'est pas un problème. Il y en a même certains que je trouve plutôt sympathiques à fréquenter. Je me demande d'ailleurs pourquoi elles sont à l'UDC, parce que sur certains sujets, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec l'UDC. Donc, c'est là où je reviens. Et les individus, des fois, ils sont dans une structure. Pour quelles raisons? Ça peut être familial, ça peut être culturel, ça peut être l'opportunité du moment. C'est un peu plus compliqué que ça. Et si on met quand même l'UDC, si on met les votants, les membres, les adhérents, plus les votants UDC, on ne va plus parler avec un tiers de la population. Donc, j'espère plutôt que ce tiers se résorbe, puis qu'on en aille vers autre chose, plutôt que se dire non, mais je ne parle pas avec eux. Par contre, nous, la complaisance qui pourrait leur permettre de légitimer leur action, ça c'est autre chose.
Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est à une autre échelle. Je comprends bien. Je comprends bien. Bon. Papa, hein, 10 et 12 ans quand même, hein, je pensais qu'ils étaient plus jeunes que ça. T'es engagé en politique, bientôt docteur, félicitations.
Merci.
Pourquoi en fait? Pourquoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? C'est ta question la plus métaphysique de ce soir, mais je vais quand même la poser. Ouais. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait tout ça? C'est quoi le but?
Wow, ça c'est une grande question, ça. Moi je crois pas qu'il y ait quelque chose d'écrit et qui nous destine à un but ou quoi que ce soit. J'ai cette idée très humaniste qu'on a notre destin entre les mains, en tout cas qu'on peut faire jusqu'à un certain bout quelque chose et puis qu'on peut essayer de l'influer. Après, évidemment, l'infléchir. Après, évidemment, il y a les conditions matérielles qui font que on n'est pas tous au même niveau et avec les mêmes outils ce que le POP essaye de résorber. Mais moi, je ne vois pas un sens utilitariste ni à mon rôle, ni même à mon métier. Je ne pense pas que l'histoire, par exemple, c'est une sorte de grand livre qui donnerait les recettes pour permettre d'arriver vers une société meilleure.
Ah non? Ah, non. C'est vrai? Ouais. Tu crois pas cette idée un peu galvaudée, hein, de pas répéter les erreurs du passé en étudiant les erreurs de... Enfin, pas répéter aujourd'hui les erreurs du passé en les étudiant.
L'historien que je suis, il dirait que chaque situation est dans un contexte propre qui n'existe plus par essence. Donc
mais il n'y a pas des réalités transcendantales, absolues, permanentes?
Non, je ne pense pas.
Okay.
Je pense que, par contre, alors, ça peut... voir des évolutions historiques peut nous aider à questionner le présent, ça oui, mais dans le sens qu'on trouverait une sorte de livre de recettes qui nous amènerait forcément à dire, ah ben dans cette situation il faut faire ça. Non, alors ça j'y crois absolument pas. D'ailleurs le métier d'historien qui est souvent mal compris, hein, c'est pas de l'érudition des faits du passé, c'est plutôt une méthode d'analyse, d'accès aux sources, de réflexion critique sur ces sources, ce qu'elles veulent dire, qui c'est qui les, comment elles ont été produites, par qui, pourquoi elles sont conservées, quelles sources il manque du coup. C'est plutôt ça le travail de l'historien, c'est pas de dire mais regardez
en 1804,
ouais, 1804 ouais. Il s'est passé ça, Napoléon a fait ci et du coup il s'est fait prendre par de revers et forcément ça menait à la fin de son empire et puis après il y a eu tous les autres épisodes.
Tu vois, genre s'ils avaient un peu fait gaffe en 41 avant Barbarossa à Napoléon, ils auraient peut-être pas envahi la Russie, tu vois.
Si les...
ouais, ils auraient fait gaffe. D'ailleurs, apparemment, ils se stressaient comme ça de pas reproduire
si,
le
si,
truc.
Si,
pas
si
de bol,
les Italiens,
mais tu vois, si, avaient...
si les Italiens ne s'étaient pas embourbés en Grèce, et que l'Allemagne n'avait pas dû aller aider les Italiens.
Exact.
Mais ils auraient perdu. À terme, ils auraient perdu. Même s'ils faisaient une opération Barbarossa complètement maîtrisée, on va dire, avec en atteignant ses objectifs, et je suis persuadé, ils auraient fini par perdre. Après, de nouveau,
bon,
ça c'est
impossible. Mais tu vois, pour toi, pour...
bien sûr.
Mais
non, alors ça, je ne crois pas. Par contre, c'est vrai que pour les, notamment, j'avais vu l'armée américaine qui étudiait encore les batailles d'Hannibal pour savoir, pour s'inspirer des stratégies parce qu'elles étaient particulièrement exceptionnelles. Pourquoi pas, c'est intéressant, mais pour moi, ça c'est plus. C'est plus du folklore et puis je suis pas sûr que ça influe beaucoup sur le résultat d'une bataille par exemple.
Donc pas de grand narratif alors. Tu le fais parce que tu sens que tu dois le faire et.
Oh, je pense que c'est important parce que j'en ai aussi besoin d'un côté, parce que là je le fais aussi pour moi, hein. On le fait pas si on a aucun plaisir, aucun intérêt. Voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne. Tout ce que je fais d'ailleurs, tout me passionne. D'ailleurs, je pense un peu à un problème de temps libre parce que ça se passe très bien en histoire, ça se passe pas mal en. Ça reste à définir, mais voilà, j'ai en tout cas beaucoup de choses à faire en politique. Et puis la famille, ça se passe bien aussi, mais ça demande aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que comme tout le monde, mes journées sont limitées. Donc à ce niveau-là, mes passions commencent à peut-être un jour me demanderont de faire un choix. Entre les deux, j'entends, entre la famille évidemment, mais entre l'histoire et la politique, ça c'est possible. Mais, ou en tout cas, d'une série, ou de reconfigurer mes engagements. Mais, non, j'ai pas. Si l'histoire nous apprend bien quelque chose, c'est que c'est très dangereux, à mon avis, de justement être ancré dans ces grands récits de, que ce soit la grandeur du passé, etc., ou d'aller vers quelque chose de plus grand, etc. C'est dangereux. Moi, je trouve que il faut être un peu plus humble, retourner à un niveau un peu plus humain. Moi, typiquement, les récits nationaux, moi, je suis pas du tout nationaliste. Je suis suisse parce que j'y suis né, mais j'ai pas d'attachement spécifique. J'ai un attachement parce que je suis né en Suisse. Il y a des choses que j'aime bien en Suisse et je connais du monde et que c'est un endroit que je trouve assez agréable à vivre. Mais en même temps, pour moi, c'est une frontière qu'on a dessinée, c'est une convention sociale. Et puis, c'est pas au nom de cette convention sociale qu'il faudrait créer un grand récit, un grand mythe fondateur pour arriver à une sorte de puissance qui nous dépasse. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, ça, comme vision des choses. Et je pense que c'est, comme je le disais avant, je pense que c'est assez dangereux.
Bon, on pourrait continuer parce que je serais vraiment très curieux de savoir la contradiction avec ça, en tout cas apparente à mon sens, et l'idée du grand soir, qui est un grand narratif.
Bien sûr. Mais comme je le disais avant, moi, je crois pas vraiment au grand soir. Parce qu'après le grand soir, il y a le matin. Et typiquement, imaginons que le POP, maintenant au niveau de la Suisse, faisait une révolution. Au niveau national, on est plus ou moins à 1% hein, du corps électoral, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres non-votants qui pourraient peut-être nous soutenir. Mais on est quand même relativement modeste. Donc si on prenait le pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Une dictature? Faire que les gens éduquer le peuple pour qu'ils croient ou qu'ils nous suivent? Moi, je pense que c'est hyper dangereux. Donc, dans ce sens-là, non, le grand soir, c'est une idée. Ça s'est passé dans un contexte donné, de nouveau. Moi, je pense pas qu'on puisse reproduire 1917 et puis après se dire, bon, on a vu ce que ça donnait après, hein, il n'y a pas que du bon. Donc, non, moi, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis que il faut un travail de fond pour convaincre les gens. Là, aujourd'hui, bah, c'est peut-être le problème de la gauche aussi, général. C'est que, bah, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on a? Quelle utopie ou quelle idée on a à transmettre? Et ben, après toutes les désillusions du XXe siècle, bah, c'est quand même un constat plutôt de, on va dire, pour rester positif, de semi-échec. Mais bah, voilà, on voit que la gauche recule partout, ou presque, et puis que c'est de nouveau des figures d'extrême droite en général, en tout cas populistes, qui reprennent le flambeau dans plein de pays. Et bah, voilà, comment réagir à ça? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que là, je suis aussi en contradiction avec Marx, dans le sens où bah, le marxisme proposait un grand récit, le grand soir, la prise de pouvoir par ceux qui produisent les richesses, etc. Moi, j'y crois toujours à ça. J'y crois. Je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. Mais le narratif, à un moment donné, il est évidemment essentiel pour créer une cause. Mais si ça devient quelque chose de figé dans lequel on peut plus... où l'humain n'a plus sa place, parce que s'il
reste un outil, en fait.
Ben, ça reste un outil. Ça reste, les récits, c'est essentiel pour, si les gens croient à rien, ben, il n'y a pas de changement. Ça, c'est clair. Mais si on a une sorte de livre de cuisine avec notre narratif qui nous dit, ben, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, après, il va se passer ça, après, il va se passer ça. Ben, si toi, t'es un peu en dehors de ce narratif, ben, qu'est-ce qu'on fait? On supprime d'une manière ou d'une autre. Physiquement ou d'une autre manière. J'espère que c'est plutôt d'une autre manière, mais voilà. Donc, moi, je me méfie toujours quand même un peu de ces idéologies trop. Qui se veulent trop.
C'est une vraie approche critique.
Ouais, je pense qu'il faut.
Comme souvent, bah, la réponse, ça dépend. Quoi. On verra bien. Ça dépend du cadre, ça dépend des circonstances. Des fois, c'est utile, le grand narratif, des fois pas, des fois. Mais avec une mesure, tu m'apparais comme quelqu'un de très mesuré. Et c'est le cas de la plupart des gens avec lesquels j'ai discuté, en tout cas sur ce micro ou dans d'autres. Plein de bonnes intentions, très mesurées, prêt au dialogue, prêt au compromis. C'est cool, quoi.
Ouais, après, il faut voir, on en parlait avec Romain il n'y a pas longtemps, mais il y a aussi des événements qui font que des gens qu'on pense très mesurés, très ouverts au dialogue et tout ça, bah, tout à coup, le contexte fait que bah, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Je me méfierai de toi alors la prochaine pandémie. Je ferai attention.
Pour la prochaine pandémie, non, je pense que je suis plutôt, ça on n'en a pas parlé, mais je suis plutôt libertaire dans ce
médical.
Non, pas médical, mais je dis, moi j'ai un côté anarchiste en moi assez fort, plus que communiste.
C'est vrai qu'on en a pas encore parlé. Parce que c'est quand même assez différent, effectivement. En tout cas, ben, tu disais aussi que tu t'éloignais de cette doxa marxiste-léniniste, pour le coup, et pas spécialement anarchiste, même si on les rapproche souvent. Ça serait intéressant de parler de ça, effectivement.
Bon, moi, je suis convaincu que l'anarchie a raison sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut trop de pouvoir, il faut limiter le pouvoir. Moi, il y a trop de pouvoir, les êtres humains ont trop de pouvoir. C'est pas possible d'avoir autant de pouvoir sur autant de monde. C'est ça. Pour moi, c'est une des bases du problème de notre fonctionnement. Et là-dessus, les anarchistes, ils ont raison. Par contre, là où je pense que ça reste une douce illusion, c'est qu'à un moment donné, bah, il faut, s'il n'y a pas du tout de pouvoir, et bah, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bah, il faut quand même une organisation. Puis, moi, je crois quand même que pour éviter justement qu'il y ait des inégalités qui se créent ou recréent, et bah, il faut quand même un cadre qui permette d'éviter justement ces écarts-là. Et c'est là où je pense que l'anarchisme, dans une société avec des individus purs, totalement purs et désintéressés, ça peut marcher.
Le problème, il est là.
Mais ça, dans les faits, ça marchera pas.
Ouais.
Je suis convaincu. Donc l'anarchie a raison sur le fond, mais je pense que c'est pas possible de le concrétiser. Mais je pense qu'il faut absolument, en tout cas moi, je garde un fond d'anarchiste au fond.
Ok. Bon, merci de cette discussion.
Avec plaisir.